Et dans l'actualité des idées aujourd'hui, le travail est-il encore un droit? On en parle avec notre invité, le juriste Alain Supiot, professeur au Collège de France, titulaire de la chaire État social et mondialisation, analyse juridique des solidarités. Il vient de diriger Mondialisation ou globalisation, les leçons de Simone Veil, a co-dirigé avec Pierre Musso Qu'est-ce qu'un régime de travail réellement humain chez Hermann, et de publier aussi un Que sais-je au PUF édition sur le droit du travail. Profitant du centenaire de l'Organisation internationale du travail, il appelle à imaginer un nouveau modèle de production pour les générations à venir, en revenant à l'essentiel, la justice sociale, au fondement de l'OIT. Réduction des inégalités, amélioration des conditions de travail, que faire pour avoir moins mal à notre travail, pour que le travail redevienne humain? Bonjour Alain Supiot.
Bonjour.
Cette notion de travail humain, inclus dans celle de régime de travail réellement humain, a-t-elle obtenu une reconnaissance juridique quand elle a été imaginée, conçue? Est-ce que c'est un vœu pieux, un but vers lequel tendre, ou un régime contraignant, une obligation?
Alors, c'est une expression qui figure dans le préambule de la constitution de l'OIT, qui a été adoptée en 1919, à l'issue de la Première Guerre mondiale. Il faut, pour être honnête, dire que ça ne figure que dans la version française de la Constitution. La version anglaise est un petit peu moins ambitieuse. Elle parle de « human condition of labor ». Donc ce sont les conditions du travail qui doivent être humaines. Le travail lui-même, on n'en dit rien. Mais c'est la raison pour laquelle la formulation française m'a paru très inspirante vis-à-vis des problèmes de la modernité, où la question n'est pas seulement celle des conditions de travail, mais du travail lui-même.
Et la version française vous intéresse particulièrement parce que, vous nous le dites, elle permet aussi de réinvestir cette notion de travail dans toutes ses dimensions et notamment sa dimension anthropologique et culturelle. Dès lors, ce travail humain, comment vous l'interpréteriez? Comment vous le définiriez? Qu'est-ce que ça englobe?
Alors, pour aborder cette notion dans sa profondeur vraiment anthropologique, je pense que Simone Veil, que vous avez évoquée, a une formule qui résume. Vous savez, elle avait des formules fulgurantes. Elle dit c'est par le travail que la raison saisit le monde et s'empare de l'imagination folle. C'est-à-dire que dans le travail, il y a deux choses. Il y a une dimension objective où l'animal humain aménage son milieu vital, pour le meilleur ou pour le pire. Donc, il exprime sa marque sur les milieux naturels. C'est une dimension qui revient au premier plan avec la question écologique, c'est-à-dire ce lien indissoluble qu'il y a entre la façon d'organiser le travail et l'empreinte écologique. Et puis, s'empare de l'imagination folle parce que dans un travail, le travail il est réellement humain. Si, à la différence du travail de l'animal ou de la machine, il consiste à projeter sur le réel ce qui a d'abord été des images mentales. On a l'idée que quelque chose va advenir. Je ne sais pas, ça peut être des choses très humbles, que ce studio soit propre, ce qui est le cas d'ailleurs.
Merci.
Ou ça peut être qu'on va fabriquer la Pietà à partir du marbre. Et puis ensuite, il faut se confronter à la réalité matérielle et puis la réalité sociale, puisque beaucoup de travaux se font, donc il faut apprendre à travailler avec les autres. Et c'est en ce sens que le travail est une école de la raison, parce que c'est ce qui, dans cette confrontation de votre univers mental avec l'univers social et l'univers physique, que vous, d'abord, vous affirmez en tant que sujet, mais vous soumettez votre subjectivité au principe de réalité.
Simone Veil, elle a aussi réfléchi autour des conditions d'un travail non servile et interrogé le lien de subordination qui est au cœur de l'emploi salarié. Elle avait pour mémoire été tentée l'expérience d'être ouvrière dans une usine, expérience dont elle a témoigné dans son journal, journal d'usine, dont je vous propose d'écouter un extrait.
J'ai failli être brisée, je l'ai presque été. Mon courage, le sentiment de ma dignité ont été à peu près brisés pendant une période dont le souvenir m'humilierait. Si ce n'était que je n'en ai à proprement parler pas conservé le souvenir. Je me levais avec angoisse. J'allais à l'usine avec crainte. Je travaillais comme une esclave. La pause de midi était un déchirement. Rentrée à 5h15, préoccupée aussitôt de dormir assez, ce que je ne faisais pas, et de me réveiller assez tôt. Le temps était un poids intolérable. La crainte, la peur de ce qui allait suivre ne cessait d'étreindre le cœur que le samedi après-midi et le dimanche matin. Et l'objet de la crainte, c'était les ordres. Le sentiment de la dignité personnelle tel qu'il a été fabriqué par la société est brisé. Il faut s'en forger un autre, bien que l'épuisement éteigne la conscience de sa propre faculté de penser. Mais force de conserver cet autre. On se rend compte enfin de sa propre importance. La classe de ceux qui ne comptent pas, dans aucune situation, aux yeux de personne, et qui ne compteront pas, jamais, quoi qu'il arrive, en dépit du dernier vers de la première strophe de l'Internationale.
Voilà, on est en 1934, Simone Veil, professeure agrégée, entre comme manœuvre dans une usine. Elle y fait un engagement, elle le racontera dans ce journal d'usine, mais aussi dans La Condition ouvrière, l'un de ses livres phares. Qu'est-ce qu'elle en déduit, qu'est-ce qu'elle en retire comme formulation sur ce lien aussi de servilité ou de subordination que l'on peut retrouver dans le travail Alain Supiot?
Alors, nous parlons ici de Simone Veil, la philosophe, ça s'écrit avec un W, qui est morte en 1943 à Londres, en travaillant pour le gouvernement de Gaulle. Je préfère préciser les choses à cause de l'homonymie avec la femme politique. Vous avez parlé d'engagement, ça pourrait prêter à confusion. En réalité, lorsqu'elle va chez Alstom, c'est pour faire l'expérience de la vie ouvrière. Et ça, c'est quelque chose qui devrait interpeller tout le monde de ce qu'on appelle les sciences humaines. On peut avoir des savoirs objectifs aujourd'hui sur les conditions de travail, accumuler des chiffres, des observations, mais rien ne peut remplacer cette forme du savoir qui vient de l'expérience. Ce que vit celui qui va livrer des pizzas, ce que vit le gardien de l'immeuble, etc. Donc elle ne s'autorisait à parler de la question du travail qu'après avoir fait l'expérience de ces formes de travail spécifiques qui naissent, qui vont être théorisées, ce qu'elle appelle la rationalisation du travail, c'est-à-dire le taylorisme, qui est le grand produit de la seconde révolution industrielle et qui consiste à traiter les travailleurs comme des engrenages obéissant mécaniquement aux impulsions qu'ils reçoivent de l'extérieur. Donc elle veut en faire l'expérience, elle qui est une intellectuelle, philosophe, lectrice de Platon, pour s'autoriser à en parler et à en témoigner. Donc c'est pas engagement au sens où ça serait une volonté d'aller convertir les masses ouvrières à je ne sais quel credo, c'est pas du tout son objet.
C'est l'engagement de son corps et oui, éventuellement de sa pensée.
De cette expérience, elle tire une réflexion sur le travail qui garde une grande valeur. Et je dirais surtout ce qu'on peut en retenir, ce qui peut éclairer les problèmes du présent, c'est qu'elle perçoit, elle, justement, cette histoire de travail réellement humain en ce sens. Qu'elle dit il y a deux formes d'injustice, au fond, que j'observe. Il y a le fait que les gens ne sont pas payés suffisamment, ils n'ont pas de temps de repos suffisant, ils sont épuisés. Ça, c'est ce qu'elle appelle l'exploitation économique. C'est ce qui est théorisé par les marxistes, c'est ce contre quoi lutte le syndicalisme de son temps. Mais elle dit qu'il y a une autre forme d'injustice qui est peut-être encore plus insupportable et qu'elle appelle l'oppression au travail, c'est-à-dire de passer une vie entière dans une activité où on ne vous demande pas de mobiliser votre intelligence, c'est-à-dire une activité décérébrée. Et c'est là qu'elle dit on est dans un travail réellement inhumain. Alors, j'évoque ça parce qu'il y a eu ce débat à l'époque du taylorisme où on s'est dit est-ce que la justice sociale doit être entendue uniquement en termes de quantité, c'est-à-dire un juste échange d'une quantité de temps contre une quantité d'argent, ou est-ce qu'il faut aussi se préoccuper de l'injustice qu'il y a à assigner des personnes à des travaux sans qu'ils puissent rien y mettre d'eux-mêmes.
Elle va aussi souligner l'importance de la question de la sécurité et de l'insécurité dans le travail, de ce que ça peut construire ou déconstruire le mental, la santé aussi des travailleurs. Question que l'on va retrouver aussi aujourd'hui dans ce qui peut faire qu'un travail est humain ou inhumain. Une bonne subordination est possible, ça c'est une des premières questions. Et puis la question aussi, c'est celle de la répartition des tâches. Alors, dans ce régime régime de travail humain-inhumain, comment pense-t-on la tâche ou la répartition des tâches et la question de la responsabilité? En quoi c'est essentiel à comprendre?
Parce que, au fond, que ça soit en terre communiste ou en terre capitaliste, la réponse qui avait été donnée à l'époque de Simone Veil, et qui continue d'être celle qui domine aujourd'hui les esprits, c'est que la question de la justice sociale s'entend uniquement de ces termes quantitatifs de l'échange salarial, quel salaire, pour quelle durée de travail. Et la question du contenu et du sens du travail est restée à l'écart de la discussion. De ce point de vue, Stakhanov est pas dans une meilleure situation que son équivalent aux États-Unis. Et on peut penser qu'aujourd'hui, avec la révolution technique que nous avons, les nouvelles machines que nous avons, c'est-à-dire la nouvelle révolution industrielle de grande ampleur que nous avons, il y aurait là une opportunité pour, et même il y a la nécessité, je pense, de remettre au centre de la question sociale la question du sens et du contenu du travail. Et pas seulement ce que Simone Veil appelait les questions de sous. Je ne veux pas dire par là que cette question ne demeure pas essentielle. Mais ces machines font naître de nouveaux risques. Vous avez évoqué tout à l'heure les questions de santé mentale. En fait, elles n'apparaissent pas à l'époque de Simone Veil. On risque sa peau, oui, la silicose, les maladies, toutes les troubles du squelette, etc. Tout ce que vous voulez, mais on risque pas de perdre sa raison. Or, ce qui est le propre des nouvelles formes d'organisation du travail, de ce qu'on peut appeler la gouvernance par les nombres, c'est une nouvelle forme de déshumanisation du travail qui consiste non pas à vous traiter comme une machine ou un animal, mais à vous mettre dans des conditions de travail qui vous coupent de la réalité. Je disais tout à l'heure qu'un régime de travail réellement humain vous confronte au réel en même temps qu'il vous permet de projeter vos images mentales. Or, on a maintenant l'enfermement d'un certain nombre de personnes dans des objectifs purement chiffrés où le réel disparaît. C'est dans le cas médical, un des professeurs de médecine dont le nom m'échappe maintenant a trouvé une très jolie formule pour dénoncer ce type de management tel qu'il se développe dans le secteur de la santé. Il dit « on soigne l'indice plutôt que le malade ». C'est une formule très pédagogique pour comprendre ces nouvelles formes de déshumanisation du travail.
Et c'est ce que soulignait aussi l'anthropologue britannique David Graeber dans son enquête livre « Les jobs à la con ». Écoutez la question du sens du travail tel qu'il l'a perçu et reçu de ceux qui ont témoigné auprès de lui de l'absence de sens qu'il trouvait dans ce qu'il faisait.
Une des choses qui m'ont le plus impressionné en récupérant tous ces témoignages, c'est à quel point les gens étaient malheureux. Parce qu'on pourrait penser que, bon, c'est pas si mauvais que ça. Imaginez, il y a des gens qui ont des vrais problèmes, et vous recevez de l'argent et beaucoup de respect, et vous avez rien à faire. Pourquoi est-ce que vous êtes tellement malheureux? Vous avez quelque chose pour rien, c'est parce que les gens aimeraient bien avoir, non? Quelque chose pour rien? Mais en fait, les gens me disent qu'ils sont déprimés, ils sont anxieux, ils sont malades, des maladies psychosomatiques, qui prennent leur corps et qui disparaissent à partir de l'instant où on leur donne quelque chose de vrai à faire. Et ça montre quelque chose de profond sur la nature humaine. Les gens ne sont pas ces machines maximisées dont on peut tirer le plus possible en payant le moins possible. Ils veulent avoir un effet sur le monde qui les entoure. Si on enlève cela, à ce moment-là, ils s'étiolent et meurent.
Voilà ce que la révolution informatique puis numérique a pu faire au travail comme facteur aggravant, Alain Supiot.
L'un des éléments nouveaux, c'est que depuis, et ça date d'avant même la révolution industrielle, déjà sous l'Ancien Régime, on distinguait les gens de métier et les gens de bras. Les gens de métier, c'est ceux qui mettaient une part de leur intelligence dans ce qu'ils faisaient, artistes ou artisans. Les gens de bras, c'est ceux qui avaient une tâche du même ordre que celle des bœufs ou des moulins avant. Cette distinction a demeuré en régime taylorien, où finalement les conditions de travail des ingénieurs, des universitaires, des journalistes n'avaient pas été transformées considérablement n'avaient pas été saisies par les méthodes tayloriennes d'organisation du travail. La nouveauté aujourd'hui avec les nouvelles formes de management, c'est que tout le monde se trouve pris dans ces formes de direction par objectifs quantifiés, avec pour effet, c'est-à-dire tout le monde se trouve pris dans quelque chose qu'on pourrait désigner comme la programmation plutôt que la subordination. Il y a l'idée, le nouvel objet fétiche, c'est l'ordinateur, que l'être humain n'est plus cet engrenage que montre Chaplin dans les temps modernes, mais chacun est une sorte de petit ordinateur branché sur d'autres ordinateurs qui doit répondre en temps réel aux signaux quantifiés qui lui parviennent, et on peut les programmer. Et ça s'étend même au monde de la recherche, qui est censé être le monde de l'improgrammable par excellence, puisqu'il s'agit de faire surgir du neuf. Donc prétendre programmer la recherche, c'est nier dans son principe ce qui est la spécificité du travail de recherche et lui étendre les catégories du travail marchand, quel produit tu me donnes, moyennant quel argent. Or, on voit bien, et si je prends le travail de recherche, c'est pas par un intérêt narcissique, mais c'est parce qu'il est préoccupant de voir qu'il est saisi lui aussi par des types de quantification, de bibliométrie et autres, qui cassent progressivement la capacité de faire un travail réellement innovant. Donc, si vous voulez, nos nouvelles machines, c'est des outils merveilleux, qui pourrait nous permettre de remettre au centre de la table ces questions qui ont été mises de côté du contenu et du sens du travail, si l'on considère que de plus en plus, toutes les tâches programmables seront faites par des machines. Donc on pourra se concentrer sur ce qui mobilise les facultés proprement humaines. Au lieu de quoi, on essaie d'organiser le travail des hommes sur le modèle des machines. Je pense que c'est ça qui est au cœur de la question du travail au XXIe siècle. Et la réponse ne pourrait être donnée qu'en sortant de la conception purement marchande du travail qui s'est installée à partir de la première révolution industrielle, à partir du XIXe siècle, où on s'est mis à penser effectivement en termes de travail et de marché du travail. Je dis juste un mot là-dessus, si vous m'y autorisez. Le marché du travail repose sur une fiction juridique, ce que les économistes ne savent pas et ne comprennent pas. C'est la fiction qu'un être humain peut être traité comme une marchandise, qu'il y aurait quelque chose qui serait séparable de moi-même, qui pourrait être l'objet d'un marché. Cette fiction du travail marchandise, elle a une longue histoire juridique, ça remonte au droit romain, je ne vous inflige pas ça, mais c'est la possibilité de se traiter soi-même comme son propre esclave. C'était ça l'origine de la notion de contrat de travail. Je peux me vendre comme si j'étais à moi-même mon propre esclave. Réduire toute espèce de travail au travail marchandise, c'est demeurer aveugle à ce qui reste de formes de travail qui ne sont pas indexées sur un prix de marché, au premier rang desquelles, par exemple, le travail dans la fonction publique. Aujourd'hui, quand on parle de politique du travail, d'avenir du travail, il faudrait revisiter les formes non marchandes du travail. Et pour rester sur l'exemple de la recherche, la liberté du chercheur, elle est garantie par un statut plus que par un contrat. Donc c'est d'autres catégories juridiques qui ont permis, et ça remonte à la création de l'Académie des sciences. Hein, dès le XVIIe, on a compris ça. Aujourd'hui, l'extension des catégories marchandes à toute espèce de forme de travail risque de casser la capacité de création et d'innovation, dont on nous dit par ailleurs qu'elle est absolument essentielle dans le monde contemporain.
Mais alors l'Organisation internationale du travail, qui a été pensée il y a un siècle comme une sorte de gendarme de la concurrence internationale, vous le racontez, en matière de conditions de travail, aujourd'hui, est-ce qu'elle parvient à se saisir de ces changements? Est-ce que ces nouvelles formes de travail passent entre les mailles du filet, celui du droit du travail, de la sécurité sociale, puisqu'elles sont nées, dans un contexte qui était encore différent, ou est-ce que ces nouvelles formes, elles peuvent, si retour critique de la part de l'institution, trouver des réponses en matière de droit et aussi en matière internationale, c'est-à-dire des réponses qui valent pour tous.
Alors, l'Organisation internationale du travail, effectivement, est la première grande organisation internationale spécialisée, créée en 19, comme on le disait tout à l'heure, à l'issue d'un premier grand massacre, c'est-à-dire la première utilisation de la puissance industrielle pour massacrer des êtres humains. Ça va se prolonger jusqu'en 1944-45. Et elle affirme cette chose qui n'a pas pris une ride, c'est il n'y a pas de paix durable sans justice sociale. C'est-à-dire, si vous laissez vous prospérer les injustices, vous aurez la violence. Bon. Ça, c'est quelque chose qui demeure actuel, en autant de gilets jaunes. Bon. Donc, si vous considérez que les objectifs de justice sociale s'est dépassé, que c'est un mirage, que ce qui est la seule boussole de l'action publique, c'est l'efficacité, sans souci de justice, vous êtes condamné à des formes de violence qui ne seront pas des violences romantiques, sympathiques ou révolutionnaires, qui peuvent être des formes de violence anomiques.
Non, ben justement, je vous emmène dans la rue, parce que c'est exactement ce qui se dit, colère, justice sociale, on va dans la rue avec le mouvement des Gilets jaunes.
Je suis déjà à découvert, les gars. 45 heures par semaine. Et je suis à découvert. C'est même pas légal. Je bougerai pas, les gars. Envoie tes gaz. Je bougerai pas, mon gars. C'est quoi? Ça pique les yeux, ça pique tous les jours.
Voilà, que se passe-t-il quand il n'y a plus de justice sociale, ou en tout cas quand le sentiment d'une justice sociale disparaît, Alain Supiot? C'est ce qu'on entend aussi là.
Ce qui se passe, on peut le voir sous nos yeux dans de nombreux pays, c'est-à-dire le sentiment d'injustice peut être capté par tout un tas de courants politiques qui en font leur carburant. C'est un point qui avait été très bien dit par Roosevelt dans son dernier discours avant sa mort, en janvier 1944. Il dit que les mauvaises conditions de vie et de travail, les situations de besoin sont, il dit, the stuff, c'est ce qui fait la matière des dictatures. Donc les dictatures prospèrent dès lors qu'on laisse se développer les injustices. Et nous avons autour de nous, sinon du dictature, une floraison de régimes autoritaires de toutes sortes qui prétendent qu'ils vont restaurer une sorte de justice tout en conservant, généralement ce sont des régimes qui restent sur le credo libéral du plan économique. Mais on a cette conjonction, si vous voulez, de surfer sur le mécontentement et l'injustice tout en préservant des conditions économiques qui en réalité engendrent ces injustices.
Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que la première réponse du gouvernement, ou l'une des principales réponses, a été la mise en place d'un grand débat national et pas une réponse directement sur le champ du travail, sur ce terrain-là, qui était aussi au cœur des revendications, celle de la justice sociale et de l'égalité au travail.
Oui, pour tout vous dire, je n'ai pas l'impression qu'il y ait dans l'action des gouvernements, que ce soit celui-là ou le précédent, une très grande intelligence des problèmes de transformation du travail. On a plutôt l'impression qu'on reste dans le paradigme du marché du travail. D'ailleurs, ce dont on nous parle sans cesse, c'est de réformer le marché du travail. On se donne même plus la peine de parler de droit. Donc la notion de travail est réduite à un objet sur un marché ou à un capital humain, puisque si vous prenez, il y a un rapport qui vient d'être publié de la Banque mondiale sur l'avenir du travail, où le mot capital humain apparaît toutes les quatre lignes. Or, le seul sens juridique précis de capital humain, c'est de porter en valeur d'actif le prix de ses esclaves sur les livres de compte négriers. C'est ça, le capital humain, techniquement. Alors, vous voyez, ce processus de réification, quand on emploie des concepts comme ça, il faudrait se donner le mal de réfléchir, de faire un pas de côté avant de... J'ai essayé d'œuvrer en ce sens au sein de la Commission mondiale sur l'avenir du travail. Je dois dire que, vous m'interrogiez là-dessus, le sort de ces grandes organisations internationales qui sont nées, l'OIT de la Première Guerre mondiale, mais les autres comme l'OMS, l'UNESCO, la FAO, qui sont nées de grandes catastrophes, de massacres de masse... On aimerait que ces organisations soient capables de se réinventer, de se régénérer. Seront-elles capables de le faire? Ça peut dépendre aussi de la prise de conscience des États, mais livrées à elles-mêmes, je ne crois pas que ce soit possible, malheureusement.
Quel retour critique elles devraient opérer?
Eh bien, de mon expérience, d'abord, il faut prendre conscience des problèmes qui n'existaient ni en 19 ni en 14. Et je vous en cite trois qui paraissent évidents. Le premier, c'est qu'il y a un nouveau défi technologique avec des nouvelles machines dont l'emprise n'est plus sur les corps, comme ce que décrivait Simone Weil, mais sur les esprits, donc avec des nouveaux risques et de nouvelles opportunités. Or, le droit du travail, toujours depuis son origine, a servi à humaniser les techniques. Depuis lorsqu'on a la journée de 8 heures, etc., c'était une manière de restaurer un temps des cadres spatio-temporels humainement vivables face à la folie de l'éclairage artificiel qui marchait 24 heures sur 24 et on faisait pousser des enfants les vaconnets dans les mines pendant 12 heures par jour. Donc on a réinventé par le droit, c'est pas le marché qui l'a fait, c'est le droit, des cadres spatio-temporels humainement vivables. Ils sont aujourd'hui totalement bousculés par les nouvelles machines. Donc il y a une grande question vis-à-vis de quel rapport voulons-nous avoir avec ces nouvelles machines, avec tout ce qu'elles permettent de faire et tous les risques qui courent avec elles. La deuxième grande question qui était absolument pas présente à l'esprit jusqu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale, ce n'était pas présent à l'horizon, c'est la question écologique. Donc la limite des ressources de la nature. Et ça, c'est lié à une autre grande fiction juridique dont les économistes ne sont pas conscients, excusez-moi, les économistes en général, ou disons l'économie standard, qui est la fiction du droit de propriété, de dire que la terre, c'est ma chose, et c'est elle qui dépend de moi, alors que je vous assure, vous pouvez vous mettre devant un lopin de terre, vous attendez 100 ans, c'est elle qui vous aura bouffé. Donc la prise de conscience que nous dépendons de notre milieu naturel et qu'il faut donc avoir des formes d'organisation du travail qui soient respectueuses des ressources de la nature est une question à l'évidence nouvelle qu'il faudrait prendre en considération. Et je pensais que l'Organisation internationale du travail était le lieu où on pouvait lier à l'échelle mondiale la question sociale et la question écologique qui sont les deux faces d'une même médaille. Puis il y a un troisième aspect nouveau, c'est l'émergence d'acteurs à l'échelle internationale, qui n'existait pas là non plus. Le droit international, c'était un pavage d'États souverains. Aujourd'hui, on a des grandes entreprises multinationales qui prétendent se soucier de l'avenir des générations futures, de l'écologie, etc. Donc, il faut repenser l'ordre international en prenant en compte l'existence de ces nouveaux grands acteurs.
Alors pour cela, faudrait-il peut-être, on pourrait, comme Simone Veil à l'usine, il y a presque un siècle, mettre les économistes de l'OIT sur un vélo, tout simplement, comme Jérôme Pimaud, qui était interviewé par nos confrères de France Inter, ex-livreur chez Deliveroo.
En fin de compte, le modèle dans lequel on est pas si moderne que ça, hein, puisque c'est exactement comme ça qu'on bossait au 19e, 18e, 17e siècle. La place de grève qui portait son nom à Paris avant de devenir la place de l'Hôtel de Ville, c'est ça. Des gens venaient attendre que quelqu'un les embauche pour décharger les bateaux qui, à l'époque, arrivaient à Paris, sur cette place de grève. C'est là, d'ailleurs, je m'amuse des fois à faire un petit cours d'histoire avec les livreurs dans l'œil en leur disant, vous savez que quand vous attendez les commandes à République ou à Convention ou que sais-je, à Montparnasse, vous faites grève. Le mec me dit non, moi je fais pas grève, moi je bosse. Et je dis si, parce que faire grève, c'est venir sur une place et attendre le boulot, attendre d'être embauché. À l'époque, c'était par un contremaître. Là, maintenant, c'est par un algorithme, une fois qu'on se connecte. Et puis évidemment, des fois, on n'est pas embauché, hein, parce que la commande, elle arrive à un copain ou un autre copain. Et puis un jour, on arrive même ou dans le train, on allume son téléphone, on s'aperçoit que l'application marche plus. Et quand on arrive à avoir la plateforme, on s'aperçoit qu'on a été viré pour une raison obscure. En fait, des fois, on n'a pas de raison. Donc en fin de compte, c'est ça, c'est un vieux truc, sauf qu'en fin de compte, le contremaître avec son chapeau et sa trique a été remplacé par un algorithme un petit peu plus moderne, tu vois, mais c'est pas parce que c'est moderne que c'est progressiste, en fait.
Ce n'est pas parce que c'est moderne que c'est progressiste, ce n'est pas parce que c'est moderne que c'est humain aussi, pourrait-on ajouter à l'insupio, vous l'écrivez, est inhumain le fait de traiter l'homme comme une machine, de nier ses capacités symboliques, c'est ce que font ces nouvelles formes de travail?
Il y a dans ces nouvelles formes d'exploitation, il y a quand même des différences avec la place de grève, où il y avait encore un rapport humain avec le contremaître. Je ne sais pas si vous savez comment un chauffeur Uber est informé du fait qu'il n'aura plus de travail. On lui signifie qu'il est déconnecté. Donc, et il est déconnecté par, à la suite, fonctionnement d'algorithmes dont on prétend, puisque c'est des algorithmes, c'est purement objectif et où il n'a plus de partenaire. Alors heureusement, là il faut saluer les efforts de tribunaux. En France, de la Cour de cassation a rendu une décision il y a quelques mois où elle empêche en sorte ces plateformes de se soustraire à la responsabilité d'employeur, parce que l'idée c'était de dire nous ne sommes rien, nous ne faisons que mettre en contact directement les clients et les travailleurs, nous n'avons pas de responsabilité sociale particulière. Et là il y a quand même des outils du droit qui permettent de ramener à la raison, c'est-à-dire au respect, un minimum de respect des personnes, ces plateformes. Si je prends l'exemple des plateformes. Mais d'une façon générale, j'insiste sur ce fait que, parce que je tiens à souligner ce point, que quand on parle de travail, il ne faut pas se laisser enfermer seulement dans la réflexion sur le travail marchand. Il ne faut pas oublier l'expérience, les acquis et les succès d'autres formes de travail. J'évoquais par exemple la fonction publique qui en France a joué un rôle nodal comme vraiment idéal type, c'était un modèle pendant des années sur la façon de penser aussi le privé. Elle peut être beaucoup plus efficace. Si vous prenez la question centrale de l'assurance santé, la sécurité sociale consacre 4% de ses coûts, les coûts de gestion sur 100 euros prélevés, elle ne consomme que 4 euros de redistribution. L'assurance privée, ses coûts sont sont d'environ 20 à 30%. Donc, ce qui est efficace ici, c'est le service public. Donc, laisser des pans entiers... Alors, évidemment, ça va permettre qu'il va y avoir des rémunérations des patrons, des compagnies d'assurance. Je crois savoir qu'à l'ASCOR, en ce moment, il y a des contestations même des actionnaires sur le salaire de M. Kessler. Je rappelle M. Kessler parce que c'est lui qui a dit qu'il fallait démanteler méthodiquement le programme du Conseil national de la Résistance. Évidemment, ces rémunérations qui sont de l'ordre, si je crois savoir, d'environ 8 millions d'euros par an, est-ce que c'est efficace en termes d'assurance maladie? Je pense que la sécurité sociale, ça reste moderne. Vous voyez, donc il ne s'agit pas de se laisser hypnotiser par la modernité. Il faut aussi être conservateur et savoir conserver ce qui a bien marché, ce qui a fait ses preuves dans ce pays.
Et pour conclure, je vous cite dans un article que vous consacrez dans le dernier numéro du nouveau magazine littéraire à Kafka, écrivain, juriste et interprète des lois. Vous écriviez qu'il a donné à voir dès le début du XXe siècle le pas supplémentaire dans la déshumanisation qu'autorise aujourd'hui l'intelligence artificielle lorsqu'on croit pouvoir faire de la machine le siège de la pensée et traiter les hommes comme des objets programmables. Merci beaucoup à vous, Alain Supiot, d'être passé autour de cette grande, grande table. Mondialisation ou globalisation, les leçons de Simone Veil. Vous avez dirigé cet ouvrage qui est paru dans la collection conférences du Collège de France. Deux autres livres à vous indiquer. Alain Supiot, Le droit du travail, c'est un que sais-je qui vient de paraître au PUF. Et qu'est-ce qu'un régime de travail réellement humain sous votre direction, ainsi que celle de Pierre Musso, apparu aux éditions Hermann. Un grand merci à toute l'équipe de La Grande Table. Thank you.